chez mes enfants parce qu'on me trouve berlot.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvie.
Bonjour.
Voilà, alors l'émission aujourd'hui sera composée de diverses choses, un peu comme un patchwork, comme on a souvent l'habitude de faire. Ici. Et en attendant, pour se préparer un peu, je vais vous passer un petit morceau. Voilà.
De qui ?
Ça me drape.
Alors oui, ça s'appelle Humming Dogs, c'est le nom du groupe, et la chanson c'est le teaser. Voilà. Je lis un extrait d'un bouquin qu'on avait déjà abordé dans cette émission, Les Naufragés, et je voulais parler d'un extrait qui parle de la clinique de la clochardisation. Alors, la clinique de la clochardisation montre que soit le sujet a pu avoir un fonctionnement pseudo-normal, fragilement étayé et rapidement balayé par les aléas de l'existence, soit le sujet a plus ou moins rapidement et manifestement dysfonctionné depuis sa plus tendre enfance. Dans ces conditions, la question se pose, si pour ces sujets il n'y a jamais eu insertion, comment pourrait-il y avoir réinsertion subséquente ? Malgré la réponse évidemment négative à cette question, l'aide, tant privée qu'étatique, ne se monnaie néanmoins, tant au niveau individuel du clochard qui vient chercher une soupe qu'au niveau collectif et administratif dans les demandes de financement des associations vis-à-vis de l'État, que dans le champ de cette idéologie de la réinsertion. Cette dernière n'est rien moins que la monnaie d'échange symbolique qui régit à tous les niveaux l'ensemble des rapports d'aide. En cela, elle fait pendant à ce qui était dit au chapitre précédent et que l'on retrouve dans les discours autobiographiques des clochards. Ces récits de vie ont pour triple fonction de normaliser, de désangoisser et de culpabiliser les sujets à leurs propres yeux comme aux yeux d'autrui, en faisant appel à une étiologie objectivante à laquelle tout un chacun doit pouvoir s'identifier. De même, le désir manifeste de réinsertion brandi par le soigné sert à parfaire cette démonstration, à lui-même d'abord, à autrui ensuite, de sa propre normalité. Je veux, moi, soigné, devenir comme toi, soignant. En cela, en un sens symboliquement, je le suis déjà. Ainsi, nous voilà pareils, au fond, jumeaux. Ton projet est le mien. Le discours de la réinsertion vient sceller, en portant en son sein la démonstration de sa légitimité, le pacte identificatoire entre soigné et soignant, tout comme il réaffirme le pacte identificatoire entre les individus et la société. Toute différence profonde entre les désirs des sujets, entre les logiques existentielles, conscientes ou non de leur pathologie, s'y trouve escamotée. Les voilà tous unis, tendus d'efforts, palpitant de l'espoir d'atteindre une même félicité sociale, de vivre une existence univoque régulée par le même temps, celui du travail, et récompensée par les mêmes joies, celles de la tiède normalité. Citoyen d'abord, individu ensuite, sujet s'il en reste. Il est en filigrane de ces discours insidieux, de cet humanisme apparent, une volonté totalitaire inconsciente de réduire les différences des hommes, que sont leurs souffrances et donc leur dignité, à les réduire à l'inquiétant taylorisme d'une production de masse de citoyens que plus rien ne distinguerait les uns des autres. Asymptote de la normopathie. Secret désir, lové comme une sourde bête au cœur même de nos émois compassionnels. La chanson des Restos du cœur ne commence-t-elle pas par ces mots lapsus ? Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. On n'a plus le droit. La souffrance est ici bien perçue comme asociale. Non sans raison, elle est bien en effet le dernier rempart de la subjectivité du sujet. L'ultime protestation contre l'ordre écœurant du monde.
Oui, ben, peut-être un peu, puisque les gens ne se rappellent pas forcément. On a fait déjà aussi, on avait fait une autre émission autour, on en a fait une autour de ce livre-là, mais une autre autour d'un autre livre de l'auteur Patrick Declercq, qui s'appelle Le sang nouveau est arrivé et qui traîne dans la boue le principe même de la charité. Mmh. Et donc, c'est quelqu'un qui était, si tu peux peut-être lire de quatrième de couve le pédigré de l'auteur, peut-être, non ?
Oui. Alors, donc c'est
Les Naufragés.
Il s'agit des Naufragés, édité à Terre Humaine Plomb. Nous les côtoyons tous les jours. Souvent, ils sont ivres et peinent à mendier. Ah non, c'est peut-être pas tout. Je lis.
Peut-être.
Ah oui. Patrick Declercq, psychanalyste et ethnologue, a suivi la population des clochards de Paris durant plus de 15 ans.
Oui, voilà.
Dans la rue, dans les gares, dans les centres d'hébergement, au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, au SAMU social. En 1986, dans le cadre de Médecins du Monde, il a ouvert la première consultation d'écoute destinée aux SDF en France.
Oui, voilà. Bah, le truc qui est intéressant aussi dans son discours, on pourrait dire, ouais, a priori, c'est un psychanalyste, il va établir le même type de rapport qu'il y a généralement avec tous les gens qui sont destinés à te rendre normal, quoi.
Oui.
Et qui seraient donc des modèles de normalité. Il ne se présente absolument pas comme ça, et surtout, son expérience lui démontre l'inanité d'un tel objectif, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'il dit très clairement. Tout comme il dit très clairement qu'il n'a pas spécialement de rapport personnel avec les gens en question, et que c'est aussi par expérience qu'il sait que c'est des gens, c'est l'altérité la plus profonde qu'il ait pu rencontrer, et que au moins il faut en être conscient, et que tout ce qui est tout ce qui est objectif, il le dit bien dans l'extrait que tu as lu, quoi, qu'en effet c'est des présupposés, des préjugés particulièrement répugnant, on va dire, parce que ça repose sur l'idée, en effet, de la valeur travail, etc. Et il est quand même, il pense qu'il y a on peut limiter les dégâts de ce que fait la société envers les clochards, puisqu'il parle pas de gens qui seraient momentanément SDF ou quoi, mais bien de ce qu'on appelle les clochards, qui sont, comme on dit, en désocialisation profonde. Que, en effet, c'est pas si on était dans une société libertaire, une société égalitaire, il s'agirait pas de simplement que la société se conforme à ce que eux demandent. Et en effet, il y a l'idée que il faut pas chercher, à chaque fois qu'on a cherché à les stabiliser, même au point de vue logement, au point de vue leur trouver un travail parce qu'ils ont bossé un petit peu, penser que alors ils sont prêts pour bosser tout court, bah ça se traduit généralement dans les mois qui suivent ce type de démarche par la mort de l'individu. Mmh. Et que question réussite du type de démarche là dont il parle dans l'extrait que t'as lu, c'est 100% d'échec et 0% de réussite. On n'a jamais, il y a même pas d'exception, c'est tout.
Oui.
Ça marche pas, voilà. Mmh. Donc c'est quand même un truc qui s'étonne, parce qu'il dit c'est quand même surprenant que quand tu fais des expériences qui foirent systématiquement depuis des années, des années, des années, il y a des gens des scientifiques finiraient par se poser des questions, quoi, se dire peut-être que c'est, je vais pas faire comme la mouche qui se cogne sur une vitre 400 000 fois avant de se dire que peut-être il y a pas de sortie par là, quoi, tu vois, mais si, c'est comme ça, voilà.
Alors, je propose un autre article, enfin un autre petit texte, qui est un article de Alternative Libertaire, le journal de l'UCL.
Mmh. Et, Union communiste libertaire.
Oui. Et là, c'est un petit article sur les ESAT.
Les quoi ?
ESAT. ESAT, c'est les établissements et services d'aide par le travail.
Oh, j'avais envie.
Destinés donc aux usagers de la psychiatrie. Alors, après le numéro d'AL, ah oui, alors le titre c'est ESAT, faux semblant et véritable exploitation. C'est extrait de l'Alternative Libertaire numéro 346 de février 2024. Donc, c'est le dernier en date. Après le numéro d'AL de décembre qui mettait au centre les luttes antivalidistes, nous continuons de nous pencher sur les oppressions subies par les personnes handicapées. Au cœur du sujet ce mois-ci, l'exploitation des travailleurs et des travailleuses des établissements et services d'aide par le travail, ESAT. Un récent décret ouvre enfin aux travailleurs et travailleuses handicapées des ESAT le droit à la syndicalisation et à la représentation collective. Cette avancée permet à la France de donner des gages à l'ONU qui l'a condamné plusieurs fois au vu des violations flagrantes du respect des personnes que produit cette institution. Si cette loi apporte quelques avancées, nouveaux droits du travail, il en faudra bien plus pour modifier les rapports sociaux existants au sein des ESAT. En effet, l'ESAT est une institution à la fois prise dans les rapports du monde médico-social et ceux du monde du travail. Cela se traduit par des travailleurs et travailleuses handicapés qui ont accès sur leur site de travail à certains services, par exemple de la formation sur des tâches administratives. Cependant, la partie travail est presque totalement occultée par l'institution. Le symbole le plus visible est que les travailleurs et travailleuses y sont considérés comme de simples usagers. Difficile de décrire à quel point ce simple mot est une source d'aliénation et de frustration pour de nombreux travailleurs et travailleuses, car il façonne leur rapport au travail et implique qu'ils et elles reçoivent un service. Imaginez-vous accomplir un travail et voir celui-ci nié par l'institution qui vous demande de l'accomplir. Il est beaucoup question de la souffrance au sein des « bullshit jobs ». Comment qualifier alors un travail nécessaire que l'on fait passer pour un simple passe-temps qui vous est octroyé ? Des travailleurs et travailleuses m'ont raconté avoir déjà demandé une augmentation de salaire. Rappelons que leur salaire est largement inférieur au SMIC et ne peut le dépasser. La direction leur a refusé cette augmentation au motif que cela entraînerait une baisse de leur allocation adulte handicapé qui complète leur revenu. L'excuse est vraie mais révélatrice du paternalisme de l'institution, vous expliquant gentiment que votre travail n'a pas de valeur. Pourtant, ils dégagent bien une valeur ajoutée non négligeable. Une partie importante des ESAT sont spécialisés dans la sous-traitance industrielle pour tâches jugées trop répétitives ou pénibles que les entreprises du coin préfèrent refiler aux personnes handicapées. Cette sous-traitance leur permet même de passer la barre des 5% d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en entreprise. Pourquoi alors les entreprises feraient-elles un effort pour employer des personnes handicapées si elles peuvent bénéficier de leur travail pour même pas un demi-salaire dans des structures subventionnées par l'ARS ? Pour conclure, rappelons que pour beaucoup de travailleurs et de travailleuses en ESAT, le travail en milieu ordinaire constitue le Graal. L'éthique du travail de notre société leur fait comprendre que ce serait la seule façon de prouver leur complète valeur en tant qu'individu. Mais l'ascenseur social est saboté au départ car aucune entreprise n'a intérêt à ces embauches. On arrive avec le discours, spécifique des militants d'Alternative Libertaire.
C'est, qui sont très branchés syndicalisme, il faut le dire, mais oui. très. Enfin, c'est même leur pitch principal.
Le ton que ça prend, vous allez l'entendre. Leur statut. Alors, l'ascenseur social est saboté au départ car aucune entreprise n'a intérêt à ses embauches. Leur statut, leur salaire et la reconnaissance de la société devront s'acquérir par la lutte. La stratégie de l'État et du capital est précisément de maintenir ces personnes isolées. Il est donc important que syndicats et associations antivalidistes aient le regard tourné vers les travailleurs et travailleuses et leurs aspirations, car comme partout, la solidarité est notre arme.
D'un point de vue purement pratique, je pose une question parce que je ne connais pas beaucoup les lois, bien que j'ai connu des gens qui étaient handicapés, un copain qui n'avait qu'un bras par exemple, et tout. Quelle est la part de volontariat dans le fait de quand tu es handicapé, de travailler? Parce que je suppose que l'allocation de base doit être assez aussi, quasiment aussi misérable que le RSA, non? C'est quoi tu vois, c'est l'aspect volontaire du travail qui tout de suite, quand tu es très rebuté, comme je le suis par le... Enfin, peut-être toi aussi, je sais pas, par l'idée du travail, dans quelle mesure tu es comme tout un chacun, en effet, mais peut-être encore davantage, contraint, finalement. Et quelle est la part de volontariat et quelle est la part de contrainte, ne serait-ce qu'économique, pour les handicapés? C'est l'allocation de base, j'imagine, ne doit pas être terrible pour un handicapé. Donc, dire qu'il le fait volontairement, que c'est parce que ça le fait triper de l'idée de d'être utile à l'économie, ou... Non,
non, je sais pas. Mais c'est, je pense qu'il y a tout un système... Un peu aussi de ce dont parlait un peu Patrick Declercq, c'est-à-dire le système de réinsertion, la réinsertion par le travail, etc.
Ah oui, parce que toutes les objections qu'il faut, même le fait de dire c'est pour les sortir de l'isolement, ma foi, n'ayant pas été une très grosse travailleuse toute ma vie, j'ai pas été isolée pour autant. Et en effet, j'ai connu des gens qui se débrouillaient très bien pour ne pas être isolés. Au contraire, ils avaient plein de temps pour rencontrer du monde. Donc c'est pas... Voilà. Et puis te sentir exister que par le... Que par le travail, comme dans l'horrible chanson de Bernard Lavilliers, je sais pas si tu connais, Les Mains d'Or.
Oui, oui, oui.
C'est horrible, encore. Si tu veux. Je suis personne si je vais pas bosser à l'usine. C'est quelque part, ça te donne envie de te flinguer d'entendre des choses pareilles. Tu te dis donc, y a des handicapés, même dans les handicapés méchants, par exemple, qui justement protestaient contre cette idée que eux ne courraient que par que dans l'idée d'essayer de rattraper, de ressembler aux valides, etc. Enfin, t'as des mots comme ascenseur social bloqué au départ. Qui te font vraiment aussi mal que l'idée des féministes comme ça qui disent que leur problème c'est le plafond de verre. Quand t'es une femme, tu peux pas devenir facilement chef de service, patronne, est-ce que je sais encore quoi, tu vois, ou femme politique, tu vois. Donc c'est assez c'est quand même très très dérangeant comme article, je trouve. Enfin, je sais pas toi comment tu l'as ressenti, mais voilà, ça, c'est oui, c'est très dérangeant.
Alors, peut-être, je vous proposerai de lire SPK, enfin un extrait de SPK, Faire de la maladie une arme, ce fameux texte d'agitation du collectif allemand de patients, le collectif socialiste de patients. Dans les années 70.
C'est marxiste apparemment, d'après ce que j'ai vu sur le quatrième de couple.
Oui. Et d'ailleurs, on le voit à chaque page quoi, du discours, hein, il y a les références au Capital, etc. Et alors, peut-être que je le fais maintenant ou
peut-être une petite musique entre deux, non?
Peut-être aussi, oui, si je trouve quelque chose de calé. Bon, voilà. Alors là, déjà, on est en blanc à l'antenne. C'est pas terrible.
Et pendant que tu cherches, est-ce que je peux faire une petite annonce pour le prochain débat du groupe libertaire d'Ivry à Publico, 145 rue Amelot, métro République, Oberkampf du Calvaire. Dimanche qui vient, on projette un petit documentaire, pas très long, une demi-heure je crois, de Carole Roussopoulos sur le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et c'est donc accueil à partir de 15h. De toute façon, c'est ouvert le dimanche après-midi, à partir de 14h je crois bien. Enfin, il me semble, ou 13h, 14h, enfin. Et comment dire, ce sera suivi d'une accueil à partir de 15h, la projection ce sera 16h30, et ce sera suivi d'une discussion sur le thème qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui des luttes contre l'homophobie.
Voilà. À Publico.
À Publico, 145 rue Amelot, voilà.
Voilà, donc c'est un extrait de The Wind du groupe Wild Classical Music Ensemble. Et c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, ni maître, de la Fédération anarchiste. Alors, une annonce, un co-apprentissage sur la politisation du handicap et de la folie. Co-apprentissage sur la politisation du handicap et de la folie, c'était un rendez-vous samedi 10 février en gare de Fou, c'est le squat où ça se passe, au 81 rue Michelet à Montreuil. Alors la question est, comment nos handicaps, nos folies, nos expériences avec la médecine sont aussi des sujets politiques ? Venons explorer ces thématiques et ainsi peut-être expliquer des sujets parmi les plus absents de nos politisations. Individualisme, pathologisation, travaillisme, capitalisme industriel, création de la norme, voilà autant de sujets que nous pourrions toucher du doigt juste en parlant de votre grand-mère qui est allée voir le médecin pour un rhume. Un moment de co-témoignage et de partage des savoirs suivi selon les besoins de petits visionnages et ou de lectures collectives pour alimenter nos imaginaires. Donc, y a aussi un Instagram, @democrat-du8psy, et voilà, PSY. Et c'est des groupes démocratie, en fait, qui se constituent. Et alors, je cherche mon carnet pour vous donner de plus de précision par rapport aux notes que j'ai prises. Oui. Oui, et voilà, j'étais bien accueilli avec une tasse de café Zapatiste. Et voilà, donc ils se sont présentés comme Donc le but c'est aussi c'est le rétablissement autogestionnaire. Il y a avec un stand de soins communautaires animé par Salma Sardouk. C'est aussi ils exposent la question du trauma racial aussi, donc il y avait quelques références, donc il y avait une affiche qui est l'affiche du un dessin, on voyait des gens avec une espèce de béret comme ça. On a qui évoquait un peu Che Guevara, tu sais. Mais en fait, non, c'est pas ça, c'est pas Che Guevara, c'est les Young Lords, c'est-à-dire c'est les Black Panthers qui dans les années 70, avaient créé aussi un auto-support par rapport à une action psy, quoi, dans leur collectif. Alors, communauté. De soins autogérés de soins, anticapitalistes et antiracistes. Alors l'expérience des Young Lords, c'était dans le Bronx dans les années 70. Ça s'appelait, c'était l'hôpital Lincoln. Et il y a aussi une référence à un livre, En finir avec le capitalisme thérapeutique de Joseph Raphaël Iora, qui parle aussi des espaces dans l'urbanisme, des espaces qui peuvent être plus ou moins pathogènes ou au contraire. Voilà, donc il y aura une soirée d'ouverture officielle du hangar à Montreuil, 80 rue Michelet, métro Robespierre, le 28 février 2024. Là, il faudrait que tu regardes sur le calendrier.
Donc,
oui. Bah, c'est dans deux semaines puisqu'on est le 14 et c'est le 28. Ouais. Si tout se passe bien. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Ah oui, ils sont en lien aussi avec deux autres endroits. Qui sont, alors je retrouve dans mes papiers, hein, c'est désolé, hein, je fais des blancs à l'antenne. Oui, ça c'est la fiche de... Ah oui, alors ils sont en lien aussi avec le conseil local de santé mentale, CLSM, et avec les gens du 110. Qui est un GEM à Montreuil.
C'est quoi un
GEM? Un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle. D'accord. C'est une structure associative. Le CLSM regroupe des élus, des acteurs de soins, des associations et citoyens et citoyennes pour décider ensemble des actions à mener sur le territoire pour améliorer la santé mentale.
Des élus?
Oui, alors c'est ça. Là, c'est un peu plus institutionnel, ce truc-là.
Tu crois?
Hein? C'est-à-dire que dans cette institution-là, il y a un groupe de personnes qui s'interrogent sur justement c'est le groupe de travail personnes concernées du CLSM, réunissant des personnes touchées par des troubles psy. Nous réfléchissons ensemble à partir de nos besoins et nos désirs à construire une politique de santé mentale sur Montreuil impliquant les personnes concernées.
Bon. Et... Il y a moyen d'éviter les élus si on va dans un truc comme ça? Excuse-moi, on a quand même un peu l'expérience de ce que c'est quand il y a des élus dans une lutte. Autant dire que tu as des punaises dans ton matelas. Hein. Je veux dire, c'est
mal,
quoi.
Ah non, mais tout à fait d'accord. Et donc là, c'est vrai qu'il y a aussi donc, au local de Vie Libre. Vie Libre, c'est une association par rapport à la dépendance à l'alcool. Bon, ils proposent leurs locaux aussi à ce genre d'événement. C'est un rendez-vous mardi 27 février, donc la veille du jour où on ira voir les amis de en garde-fou. C'est une matinée entre 10h et 12h, 77 rue Victor Hugo au local Vie Libre. Rejoins-nous pour agir sur Montreuil. Donc c'est juste pour personnes concernées qui voudraient faire quelque chose. Voilà, donc, ça reste encore assez aussi parfois un peu flou, un peu la feuille blanche sur laquelle on doit un peu dessiner quelque chose, quoi.
En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant de voir un peu ce que ça donne sur le... Je sais pas, quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est moi qui te l'avais... Je l'avais vu sur Paris.
Tout à fait. Oui, oui.
Intéressant, même si je reste méfiante dès qu'il y a un élu quelque part. Hein, je veux dire, mais comme il semble qu'il y en ait plusieurs, faut vraiment. Enfin, je ne sais rien dire qu'il faut s'en méfier. Oui. On peut se dire, tiens, non, mais on se tient à l'écart, mais eux, ils ne se tiennent pas à l'écart. Je veux dire, autant dire que tu ferais un partenariat avec un hypermarché, quoi, tu vois, en te disant qu'ils ne vont pas chercher d'une manière ou d'une autre à te récupérer, à te manipuler. C'est quand même. C'est leur essence même, hein, je veux dire.
Ça. Voilà. Oui, excuse-moi, il y a un moment où ton micro était coupé, je ne sais pas exactement à quel moment tu dis, mais là on t'a bien entendu. Pardon.
D'accord, ok. Ouais.
Et du coup, un des intérêts aussi de ce groupe Démocratie à Montreuil, c'est, enfin disons, une des références qu'on peut voir sur leur compte Instagram, c'est aussi une des références culturelles, je dirais, c'est aussi le SPK, le Socialistische Patienten Collectif des années 70 en Allemagne, dont je peux éventuellement lire un extrait si vous voulez, pour donner un peu le ton aussi de comment, à l'époque, le décor, quoi. À l'époque, comment un collectif pouvait se former dans une époque où il y avait beaucoup d'actions directes, on peut dire, en Europe, hein, en France, en Italie, etc. Assez radicales. Alors, là, déjà, le chapitre 5, un extrait du chapitre 5, ce texte n'est qu'un début. Alors, 5, dialectique. Objet, sujet. Alors là, ils donnent une définition de la maladie, parce que là la maladie, elle a une définition bien particulière quand on la politise. De la manière la plus immédiate, le besoin de vie se manifeste dans l'expérience concrète des limitations et des atteintes faites à cette vie, dans la maladie comme être là capitaliste, il y a aussi des termes de psychanalyse, hein, et inséparablement lié à la pression de la souffrance qui l'accompagne, dans le besoin de transformation, le besoin de production. La maladie, considérée comme moment contradictoire de la vie, porte en elle le germe et l'énergie de sa propre négation, la volonté de vivre. En même temps, elle est inhibition, négation de la vie. Cependant, comme négation de la vie, elle n'est pas seulement négation abstraite du processus de vie considéré biologiquement isolé en tant que phénomène, mais simultanément et essentiellement en un, produit et négation des conditions de la, entre guillemets, vie, c'est-à-dire des rapports de production sociaux dominants. C'est parce qu'elle est une négation ainsi déterminée que la maladie est aussi la force productive visant à transformer ces conditions de vie auxquelles elle doit son apparition. Voilà jusqu'ici pour la fonction objective de la maladie. Alors c'est une définition assez complexe.
J'ai rien compris.
Comment dire? Après, ça se précise un peu.
Ah.
Disons, ça s'éclaircit, quoi. C'est qu'il y a un lien aussi entre la maladie et la société productiviste, en quelque sorte, et que la, cette, cette société capitaliste produit aussi de la maladie.
Donc, ben, c'est comme dans Bon pied, bon oeil et toute sa tête, oui, où on te dit qu'en réalité, c'est le plus souvent, il y a un lien, enfin, tu ne deviens pas handicapé seulement par la faute à pas de chance. C'était le discours de ce documentaire qu'on avait projeté avec toi.
Oui. Alors, je vais poursuivre parce que...
Mais c'est le côté force productive qui me le squatte.
Ah oui, oui, non, mais... Donc, comme on disait, c'était un bouquin éminemment marxiste.
Oui.
Donc, les références sont celles de là, de ça, de la production capitaliste, des conditions de la production capitaliste, etc. Et alors, il y a le rapport médecin et patient qui est intéressant aussi à lire. Par la maladie et à travers le statut de patient, l'individu fait l'expérience pressante et focalisée de son rôle absolu d'objet dans son isolement, son désarmement et son absence de droit. Son incapacité d'agir devient certitude sensible dans son besoin de traitement. La tâche essentielle du médecin comme agent des rapports sociaux existants dans la situation thérapeutique consiste à déterminer continuellement et sans faille le rapport médecin-patient en constituant chez le patient le besoin de traitement. La manière dont est ancré et organisé institutionnellement le rapport médecin-malade, comme nous venons de l'exposer, garantit donc la répression permanente du moment progressif de la maladie, la protestation, et de sa matérialisation, la résistance. Là encore.
Excusez-moi, c'est pas la télé, mais je fais des yeux de chouette là.
La maladie n'est pas seulement quelque chose qui est une négation de la vie, mais aussi ici protestation et résistance.
Parce que quand t'es malade, t'as envie d'être soigné. ouais, bon. Continue.
Pardon, excusez-moi. T'as envie d'être soigné, mais
t'as envie de plus être malade, quoi.
Voilà, c'est ça. Oui.
C'est intéressant.
Alors,
t'as quand même l'impression que c'est des gens à table, ils te demandent de passer chlorure de sodium, hein. Je veux dire, je sais pas.
Oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est des choses qui sont peut-être assez simples, expliquées de façon un peu compliquée. Alors, voilà. Donc, la répression de la protestation. C'est-à-dire le traitement qui réprime la maladie protestation. Ce qui peut se traduire, la protestation de la maladie, ça peut être comparé à la crise qui est chez Foucault quelque chose que la psychiatrie doit nier.
D'accord.
Mais voilà, alors... Cela garantit le maintien du rôle d'objet pathogène dans les stades aigus de la maladie. Cela veut donc dire que le capital et l'État entretiennent dans le rapport médecin-patient, caractéristique de l'ensemble de l'appareil de santé, un instrument d'oppression de premier ordre. Au stade aigu de la maladie et du besoin de traitement, l'État tire à boulets rouges sur les patients par le biais de leur absence de droit lié à la nature du rapport médecin-patient. Le patient n'a aucun droit de contrôler ou de déterminer si son traitement doit avoir lieu et comment, alors qu'il crée lui-même la base matérielle de son traitement par la plus-value, les impôts et les charges sociales. C'est-à-dire qu'il il paye sa propre répression, en quelque sorte. Si nécessaire, on le met sous tutelle, on l'interne et on l'assassine par euthanasie.
Ah bon ?
Où c'est rare quand même actuellement qu'on assassine par euthanasie des personnes en psychiatrie, mais...
Oui, quand même. Et à l'époque, c'était le cas ?
Ben,
on euthanasiait des gens internés ?
Alors, comme c'était un groupe
Allemand. T'es sûr que c'était pas plutôt les nazis pendant la guerre? Enfin,
justement,
je sais pas.
Comme c'est un groupe allemand, je me dis, dans les années 70, peut-être qu'ils font référence à cette période qu'ils ont eue quelques dizaines d'années avant.
C'est quand même bien de préciser, parce que sinon t'en apprends des belles, quoi.
Oui, c'est ça. Le moment progressif de la maladie, représenté par la protestation, ne peut venir à la conscience, s'articuler et se manifester sous forme de résistance que dans le dépassement collectif du rôle d'objet. Alors là, il y a le mot collectif qui apparaît. Par le traitement du médecin, individualisant et atomisant le patient, il n'y a que l'inhibition du patient comme moment réactionnaire de la maladie qui, pour le bon ordre, est renforcée. D'autre part, la protestation et la résistance contre les conditions faites à la maladie dans les rapports sociaux sont favorisées par la prise de conscience due à l'aggravation de l'isolement et la libération de l'énergie vitale intensifiée dans le stade aigu de la maladie, la fièvre, un rythme cardiaque élevé, de même que les prétendues violences de malades dipsychiques ne sont que le signe sensible de ce renforcement. Alors là, vraiment, il y a une interprétation de la maladie qui est quand même assez spécifique chez le SPK.
C'est limite les préjugés qu'on peut avoir sur les marxistes, où ils voient tout par le prisme de, premièrement, du travail, des rapports de production, etc. Or, bien évidemment, d'habitude, nous, c'est pas comme ça qu'on va le voir, quoi. Même si, bien sûr, on peut, le fait qu'on dise qu'il y a des maladies professionnelles et qu'elles sont, ma foi, plus que plus nombreuses dans certaines professions, enfin comme ce que disait en effet le documentaire Bon pied, bon œil et toute sa tête, ça là-dessus, oui, je pense qu'on pourrait dire ça comme ça, mais c'est difficile de savoir ce qu'ils pensent sur quelque chose d'aussi concret. On a quand même, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils préconiseraient, qu'est-ce qu'ils dénoncent. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas tout bien compris là-dessus. Qu'ils puissent pas, je me rappelle, enfin, il y a un grumeau qui surnage quand même, c'est que le patient ne peut pas finalement avoir un droit de regard sur les traitements. Il y a un truc comme ça, je me trompe pas.
Oui,
dis-moi si j'ai
bon. Ça, oui, mais ça, c'est. On a, disons, des personnes en ont témoigné aussi actuellement que parfois il ne leur était rien dit sur le traitement qu'ils prenaient, que les personnes prenaient.
Oui.
Et qu'ils n'étaient pas informés de. Non plus de quand et combien de temps, de combien de temps ils allaient prendre ce traitement.
Oui,
c'est un peu embêtant aussi.
Oui, quand même.
Je sais pas, on peut passer à autre chose. On a encore 10 minutes. Un article de. Voilà, le Midi Libre, comme ça, trouvé par hasard sur Internet. La mort, ce n'est pas contagieux. Deux Montpelliéraines créent un site pour se soutenir entre personnes endeuillées. Alors, est-ce que c'est une alternative à la médicamentisation ou la médicalisation du deuil? Deux Montpelliéraines brisent la glace et un tabou de taille, celui de la mort via un site destiné aux personnes endeuillées. L'objectif est simple, s'apporter du réconfort entre personnes ayant vécu un deuil similaire et si besoin se rencontrer. En 2023, 638 266 décès, toutes causes confondues, sont enregistrés en France. Un chiffre qu'il faut multiplier par autant de proches endeuillés si l'on veut en mesurer l'impact émotionnel, au point d'imaginer le deuil comme nouvelle cause nationale pour les survivants du corollaire du 2 novembre, jour des défunts, point d'interrogation. Une appli pour, entre guillemets, reprendre des forces. Tiffany et Caroline n'ont que trop souffert en silence, égrenant le chapelet de 7 phases de deuil qui dictent les émotions ressenties par une personne confrontée à la disparition d'un proche. Il est bon de préciser à ce stade que ce modèle n'a jamais été validé scientifiquement. et que la réalité n'est pas si simple.
Ça rappelle l'article de Libé que tu avais lu par rapport au fait qu'il y a des sites pour le soutien entre gens qui sont souffrent entre guillemets de divers troubles mentaux entre guillemets et qui sont considérés par évidemment les professionnels qui voient ça comme de la concurrence déloyale. Tu te souviens de cet article? Je vois un fort cousinage avec ça. Donc ouais, les... ah non, c'est pas validé scientifiquement. Tu
oui, oui.
Ouais, excuse-moi.
Notre rencontre nous fait du bien, nous aide à avancer. Pourquoi ne pas proposer ça à d'autres? C'est en décembre 2022 que les deux amis, posant ce constat, prennent une étrange décision autour du café de la consolation. Pour Tiffany, 34 ans, et Caroline, 39 ans, l'heure est venue de régler l'addition, celle du deuil, et de transmettre leurs expériences. Nous avons compris que des personnes ayant vécu un deuil similaire sont mieux à même de se comprendre, se soutenir. On n'oublie jamais, mais on avance. Ensemble, elles créent Ressort, un site de rencontre de personnes endeuillées, tout simplement pour reprendre des forces. 4,90€ par mois, l'accès à une messagerie privée de pair à pair et à un forum de discussion sur des thèmes prédéfinis est garanti, avec 10 jours d'essai gratuits et la possibilité de résilier à tout moment. Une vie qui bascule en un claquement de doigts. C'est une appli que j'aurais aimé trouver lorsque mon conjoint est mort. C'est libérateur de pouvoir dire que ce que l'on ressent sans avoir à réfléchir à ses mots pour ne pas heurter l'autre, explique Stéphanie, une abonnée. On est souvent en situation de devoir rassurer l'entourage qui a un peu pitié, demande si ça va, renchérit Tiffany. Sur Ressort, nous sommes dans le même bateau et il n'y a aucun tabou, tous les sujets sont abordés et personne ne juge. J'y ai trouvé aussi des personnes qui ont vécu la même chose que moi, la mort subite dans mon cas. Je sais qu'elles comprennent. Fin de citation. Une telle passerelle tend de main tendue via un si simple site internet, il fallait peut-être être passé par là. Tiffany est mère d'une fillette de 4 ans. Quand je perds mon conjoint, ma fille n'a pas un an. De la femme à qui la vie sourit à la veuve désemparée, l'un des rares mots très juridiques de la langue française qui n'a pas de synonyme, la vie bascule en un claquement de doigts. Très vite, je ressens le besoin de rencontrer des semblables, des jeunes veuves comme moi qui se retrouvent maman solo. Il doit bien exister des jeunes femmes dans ma situation, dans ma ville Montpellier, mais où les trouver? À force de pianoter sur les réseaux sociaux, elle finit par identifier un groupe de veuves aux quatre coins du pays. On a passé un week-end entre 10 super wonder mamans entourées de 8 enfants. C'est ainsi qu'elle rencontre Caroline. On pleure rarement, on rigole, c'est joyeux, on a besoin de donner du sens, insiste Tiffany. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de ça? Aider les gens qui sont dans la solitude sonne comme une évidence. Halte à la positivité toxique. Une épreuve inhérente à la vie que nous traversons tous. Mon mari est décédé en 2018. Notre fille vient alors de fêter ses 2 ans. Je suis enceinte de 3 mois de mon fils. Pendant 3 ans, je suis en mode automatique, décrit-elle pour raconter ses jours, les jours, les semaines qui suivent le drame. Déménagement de l'étranger, accouchement, recherche d'emploi, Covid. Comme si l'univers entier conspire pour l'anéantir à son tour. Qu'elle résulte d'un accident, d'une maladie, d'un suicide ou de vieillesse, la perte d'un proche est une épreuve inhérente à la vie que nous traversons, rappelle Caroline, par un chemin pavé d'infinie solitude qui semble ne mener à rien et nous met au banc d'une société qui continue de tourner sans nous. Un parent, un enfant, un ami, un frère, un collègue, comment exprimer son chagrin? Comment accepter? Comment vivre? Comment aider? Nombreuses sont les interrogations qui entourent cette épreuve. Et si difficile à partager. Si la mort demeure un sujet tabou, c'est qu'elle nous renvoie inévitablement à notre propre fin. Mais ce n'est pas contagieux, réagit Tiffany. Difficile d'être cet aidant qui un jour devra être aidé, car être veuf ou veuve, par exemple, ce n'est pas un standard. Dans une société de happy, beautiful people. Eh oui, nous sommes mortels. Je sais que mes mots apportent du réconfort à celles et ceux qui viennent d'entrer dans le club peu enviable des endeuillés. Je fais en sorte de leur apporter de l'espoir parce que je n'ai pas oublié les premiers temps où j'avais l'impression que je ne serais plus jamais heureuse, conclut Stéphanie.
Ce n'est pas une nouvelle vie qui s'ouvre pour ses amis, mais une vie qui continue. On a très envie de répliquer notre rencontre au plus grand nombre, devenir un modèle. Et leur renaissance se veut rayonnante. Alors voilà, on a là encore un exemple d'autosupport.
Ben justement, par rapport à l'idée d'autosupport, je repense effectivement à l'article dont on avait parlé, parce que des groupes de soutien entre gens endeuillés, ça existe déjà, oui. comme les alcooliques anonymes, et enfin tout ce qu'il peut y avoir comme groupe d'entraide. Il y a une différence de taille, c'est que en effet, c'est censé être coordonné par un professionnel. À chaque fois, quand on voit des reportages ou même dans des films, tu sais, on voit à un moment donné un groupe de ce genre. Il y a toujours une espèce de guignol qui est là pour dire, distribuer la parole, faire un commentaire à la noix et tout. Dans le genre, moi je suis professeur et tout, oui, t'as dit ça, ça signifie que ça et ça, oui, etc. Oui. Et c'est vrai que c'est ce qui fait la différence, et c'est ce qui fait que, de la même manière que dans l'article qu'on avait lu, ils étaient épouvantés, les professionnels, à l'idée qu'on puisse tout simplement se passer d'eux, quoi, on va dire. Et là, c'est pareil, ça existe déjà, mais c'est quand même pas une mince différence que les gens se passent de ce genre de parasite, quoi. Voilà.
Eh bien, c'est sur ces mots que va se terminer l'entonnoir pour aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine.
Soleil.
Libertà, come si è sbello, te sui qui.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Libertaire, c'est un rayon de soleil à l'émission du sud de la France, de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, la voix sans Dieu, ni maître, ni publicité. Eh bien, on va aujourd'hui s'intéresser à nos voisins sur la Côte d'Azur, à nos voisins de Monaco. Beaucoup de choses à dire sur ce petit territoire étranger, à la fois au point de vue des banques, au point de vue de la manière dont il est géré, au point de vue de la manière dont il s'est constitué, et puis au quotidien, désormais poussé